Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, écriture, livre et pouvoir, c'est vraiment aussi le cœur de ce petit salon, puisque nous allons parler, vous allez d'abord nous parler d'Éric Orsenna.
C'est ça, on va parler de la lecture aussi, puisque l'académicien et romancier Éric Orsenna, auteur qui circule avec succès, il faut le dire, entre le roman familial et puis les grands noms de l'histoire, grand signataire de pétitions également, soutien d'Emmanuel Macron, dès le premier meeting, disait-il, de juillet 2016, a été choisi pour cette mission donc du ministère de la Culture, une priorité de Françoise Nyssen. Il sera donc l'ambassadeur de la lecture, un titre officiel pour une mission qui consistera à porter le plan d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques qui était prévu par La République En Marche. Alors du côté du ministère, c'est bien la réalisation d'un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, disait Françoise Nyssen, qui répond à un double impératif, d'abord l'alphabétisation à la fin du primaire, et puis surtout une conjoncture préoccupante, puisqu'en apparence la situation est bonne, il y a 40% de fréquentation pour les plus de 15 ans, contre 25% en 1997, une couverture qui paraît assez dense aussi, hein. 16 000 bibliothèques et relais de lecture, disait Françoise Nyssen, mais c'est un petit peu une situation en demi-teinte, puisque non seulement 20% de la population n'y a pas accès dans de bonnes conditions, il faudra voir ce que ça veut dire, et puis surtout le nombre de jeunes en âge d'étudier et d'aller en bibliothèque a bondi ces dernières années, ils étaient 30 000 en plus reçus au bac en 2015, encore en hausse l'année dernière, avec à terme un possible engorgement, comme c'est déjà le cas à l'université, expliquait le magazine littéraire. À Paris, d'ailleurs, continue le magazine, seule la BNF, la BPI, donc à Beaubourg, et quelques bibliothèques municipales sont ouvertes le dimanche, donnant lieu à des files d'attente interminables, sans assurance d'avoir une place assise. Alors, le choix d'Éric Orsenna, de ce point de vue-là, est-il pertinent? C'est vrai qu'Éric Orsenna a déjà un passé politique. Il a été conseiller économique au ministère de la Coopération en 81, plume de François Mitterrand, membre de cette fameuse commission Attali pour la libéralisation en 2008. Et puis, il a aussi un solide ancrage populaire parmi les lecteurs. Prix Goncourt des lycéens en 98. Il est toujours très lu en bibliothèque. Je regardais le site du ministère. 13e au palmarès officiel des emprunts en 2015. Il était 15e en 2016 pour le même livre. Alors concrètement, son rôle d'ambassadeur sera assisté d'un responsable du ministère. Il fera le tour des DRAC. Vous savez, ces directions régionales de l'action culturelle pour tâter le terrain. Apparemment, ce sera ce qu'on appelle la méthode Macron. Il y aura la DRAC, donc, mais aussi bibliothécaires, l'ensemble des agents publics concernés, les organisations syndicales, les citoyens, les collectivités et les élus, dit le communiqué du ministère dans cette formulation si caractéristique. Cependant, il faut aller le plus vite possible, dit Françoise Nyssen. Il n'est pas normal que les bibliothèques soient fermées quand les gens ont le temps d'y aller, principaux horaires visés, donc le dimanche, mais aussi les jours ouvrables après 17h, ce qui fait dire à Actualité que cette mission ne sera pas une sinécure. Je termine en précisant qu'elle n'intervient tout de même pas ex nihilo, puisque le terrain a été préparé depuis un an environ, en partenariat avec l'Association des bibliothécaires qui tient son congrès cette semaine. Pour la première fois d'ailleurs depuis Aurélie Filippetti en 2014, une ministre de la Culture est venue à ce congrès. L'ABF donc avait interpellé le président deux jours après son élection. Côté financement, simplement, on compte beaucoup sur la DGD, la dotation générale, le sigle complet de décentralisation du ministère de la Culture, c'est 80 à 85 millions d'euros, mais sa durée limitée de 3 ans inquiète les collectivités locales. Côté consensus, ce sera difficile aussi, puisque la CGT-BNF, en tout cas, à Paris, a déjà indiqué qu'elle ne participerait pas à ce débat prévu par le gouvernement. Quand on voit le nombre de suppressions de postes que l'on a subies, il faudrait beaucoup plus d'effectifs, ou alors faire travailler plus les agences, qui n'est pas facile à faire accepter au personnel, disait un responsable dans l'actualité. Alors, faut-il ouvrir les bibliothèques? Le débat a déjà été fait, on pourra y revenir avec quelques chiffres. Mais pour vous, messieurs, quels effets escomptés d'abord d'un tel plan, et puis quelles seraient éventuellement vos préconisations?
Ah, bah alors, ils vont être ministre à la place du ministre. On reparlera dans un instant de Françoise Nyssen d'ailleurs. Peut-être préciser que, avant d'être Goncourt des lycéens, il était Goncourt tout court. Éric Orsenna, l'exposition coloniale, ça ne nous rajeunit pas. C'est une trentaine d'années, peut-être maintenant.
1987 ou 88.
Ah bah alors 30. Bien, oui. 30 ou 29 ou 30. Alors on est assez juste. Et DRAC, à moins qu'ils aient changé, c'est pas l'action culturelle, mais les affaires culturelles. Et c'est important, les mots, évidemment, en matière de culture. Les bibliothèques, alors, je prolonge la question. Étienne Montetti.
L'analyse est assez bonne. C'est vrai que les bibliothèques sont des lieux qui sont fermés quand on peut y aller. On l'a tous observé voulant aller consulter un livre. Après 17 ou 18 heures, quand on sort soi-même de ses activités, ou le week-end quand on a du temps, ces lieux ne sont pas ouverts. J'ai noté avec intérêt que dès qu'il s'agit de réformer, il y a tout de suite une corporation qui est autour de la table, qui parle moyen et qui parle réduction d'effectifs. Donc je souhaite bon courage à Eric Orsenna. Il a énormément de qualités, c'est un énergique, un enthousiaste, mais c'est aussi quelqu'un qui semble se lasser assez vite puisqu'il fait mille choses et que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire du bateau, qui aime s'intéresser à un sujet comme le papier, l'eau, récemment les moustiques. Il publie à la rentrée un livre sur La Fontaine, après avoir fait quelque chose sur l'autre. Bref, c'est une sorte de touche-à-tout.
Ouais.
Je ne sais pas jusqu'où va aller son degré de patience pour multiplier les réunions pour régler un problème qui est certainement extrêmement complexe, mais on lui souhaite beaucoup de courage parce que tout ça est pavé de bonnes intentions.
Oui, après ce sera toujours la question des moyens qui in fine primera. Hein. Si on veut ouvrir les bibliothèques plus longtemps, il faut mettre des moyens. Daniel Martin.
Je crois que la question des moyens effectivement est essentielle parce qu'ouvrir le dimanche et ouvrir en soirée, ça veut dire à peu près doubler le personnel. Donc doubler le personnel, tout de suite on voit le coup. Il y a des expériences qui sont menées en France, certaines bibliothèques sont ouvertes, soit des bibliothèques universitaires, soit des bibliothèques grand public. Moi, je prends des exemples que je connais, l'excellente médiathèque de Moulins, depuis qu'elle a été refaite et rouverte, a une pratique d'ouverture le dimanche après-midi, une fois par mois. Et là, on arrive à d'autres questions qui sont effectivement comment s'inscrire à la bibliothèque dans la vie des gens, qui a accès à la bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque ouverte, il ne suffit pas d'ouvrir la bibliothèque pour que le public soit là, puisque ça n'est pas dans les habitudes. Donc ça veut dire que la bibliothèque doit accentuer son travail de préparation, d'animation, de formation, ce qui est vraiment le travail de base des bibliothèques qui sont maintenant beaucoup plus ouvertes, bibliothèques ou médiathèques, beaucoup plus ouvertes qu'avant. On peut aller à la bibliothèque pour emprunter un livre, mais aussi on peut aller pour lire un journal, on peut aller, les collégiens y vont pour travailler, les hommes d'affaires y vont parce qu'ils ont un ordinateur à disposition, c'est vraiment un lieu qui est multifonction. Mais de là à ouvrir plus largement, il faut convaincre un public d'arriver. En gros, les bibliothèques ouvrent, alors peut-être que je me trompe, mais je crois à peu près être sûr de mes chiffres, une vingtaine d'heures par semaine, ce qui est quand même pas énorme.
Mais j'avais une trentaine.
Et les plus importantes ouvrent jusqu'à 30, 35.
D'accord.
Mais de toute façon, c'est moins de 40 heures. Et effectivement, l'idée d'ouvrir au moment où le public est disponible, c'est-à-dire en dehors des heures de bureau, le soir, etc., moi je trouve que c'est une idée formidable. Est-ce que ça appartient aux habitudes et aux pratiques françaises? Je ne sais pas. Mais
ça ne peut pas y appartenir tant que la possibilité n'existe pas.
Basons-nous sur les expériences en cours. Regardons ce qui s'est passé. Comment effectivement tout ça se développe. C'est vrai que, je trouve que globalement, on a toujours en tête le modèle anglo-saxon, le modèle nordique sur ces choses-là sans le connaître vraiment. On rêve un peu de ça. C'est vrai que les médiathèques, dans leur fonctionnement, évoluent considérablement tout de suite et ils font un travail absolument remarquable. Mais si vous parlez à des spécialistes, qui fréquentent les bibliothèques, c'est quand même en gros une clientèle bourgeoise de centre-ville. Et il y a encore un travail énorme de conquête de public à faire. Donc ça remue, cette amplitude horaire remue toutes ces questions qui sont des questions, semble-t-il, extrêmement passionnantes.
Étienne ?
Peut-être qu'il faut réfléchir, mais j'imagine que le ministre et l'académicien y auront songé aussi à observer les horaires d'affluence. Est-ce que le matin, par exemple, on va en bibliothèque ? Peut-être pour certains étudiants, peut-être pas. Et peut-être qu'au fond, c'est à partir de 14h que tout se passe, mais pas jusqu'à 17h dans ces cas-là, peut-être jusqu'à 20h, effectivement. Je vais pas me souvenir, mais je suis un vieux monsieur maintenant, d'avoir été tellement en bibliothèque le matin. C'est vrai que c'est des pratiques...
Mais ça, c'est parce que vous étiez fait tard.
Peut-être que je m'élevais tard à ce moment-là, mais voilà, on se mettait au travail. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous avez raison, Daniel Martin, de le rappeler, qui va lire la presse, et peut-être ça, c'est une habitude du matin, c'est vrai.
À suivre. Xavier Martinet.
Oui, je voulais donner quelques petites informations pour permettre d'évaluer la faisabilité de ce plan. Donc, il y a déjà eu un rapport qui a été fait en 2015 à l'époque par une sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert. Et toute la question à l'époque déjà, et ça reste un travail à faire, c'est d'évaluer effectivement l'impact qu'ils appellent social des bibliothèques, donc dans son environnement territorial, en lien avec les habitudes des populations, finement, et puis à savoir si on parle aussi effectivement de bibliothèques ou de points de lecture. Alors, j'ai pas réussi à savoir comment ça se présentait, mais c'est des établissements évidemment moins gros que des bibliothèques. Et si on compte ces points de lecture, on a plus que 7100 bibliothèques pour quadriller le territoire, avec effectivement, et c'était déjà pointé à l'époque, des questions de rapport entre bibliothèques et densité de population, notamment en milieu ruraux et en territoire périurbain toujours. Pour la question, juste, je termine là-dessus, du déficit de fréquentation. Là, c'est une question qui m'a semblé n'est pas réglée, c'est de savoir si ce déficit, en tout cas apparent, ou en tout cas par rapport à ce qu'on attend, c'est un déficit qui vient de la population en général ou qui est dû aux étudiants, effectivement, puisque c'est aussi un argument des personnes qui voudraient ne pas ouvrir autant les bibliothèques municipales que de renvoyer aux bibliothèques universitaires, finalement, cette question de l'accueil des élèves. Hein, pour eux, ça se résume à ça.
Alors, si Sylvie Robert a fait un rapport, ce qui est le cas, je conseille fortement au ministre et à l'académicien de s'y reporter, parce que c'est une femme qui aime immensément l'art et la culture. Donc, c'est un rapport qui existe, autant s'en servir.
Oui, Martin. Cette question est débattue dans l'espace public à peu près, je crois, depuis 2010. Il y a déjà des préconisations et des mesures qui avaient été prises sous la précédente présidence. Mais sur le milieu rural, je rappelle quand même le travail absolument remarquable que font les BDP, bibliothèques départementales de près, qui effectivement ne sont pas des grosses institutions, mais qui couvrent des zones importantes et toute une population importante. Et l'autre chose, me semble-t-il, par rapport à la bibliothèque qui est important, c'est qu'on parle généralement du livre papier. Les bibliothèques, c'est le lieu, effectivement, où on peut avoir accès aussi, parce qu'il y a une fonction pédagogique dans la bibliothèque, où on peut avoir accès à d'autres supports que le papier. Alors, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Toujours est-il que ça fait partie de la mission d'une bibliothèque. Et je pense aux étudiants, puisqu'on sait que la plupart des textes scientifiques maintenant sont plutôt en ligne que consultés en ligne que sur papier. Ça fait partie de nombreuses autres questions qui s'ajoutent à l'ouverture du dimanche.
Et c'est vrai que c'était un des axes de travail du ministère. Il y a 20 bibliothèques qui sont labellisées bibliothèques numériques de référence.
Bon, du coup, on ne parlera pas non plus ce soir de Françoise Nyssen. On n'a toujours pas réagi, en fait, ici, à cette nomination et confirmation depuis au ministère de la Culture. Mais nous avons, j'espère pour elle, largement le temps de le faire.